souhaitiez compléter, intervenir tout en tout cas.
Oui, bah, notre rôle dans l'éducation, dans les établissements scolaires, c'est effectivement de pas forcément être seulement dans le dire la loi, c'est ça, même si c'est important de le dire, on l'explique hein, souvent, mais c'est aussi le rôle éducatif, c'est déconstruire les stéréotypes et les préjugés. C'est-à-dire que, et ça on essaye de le faire tout le temps, on part des représentations des élèves sur un certain nombre de sujets, que ce soit en philosophie, en histoire ou même en mathématiques par exemple, on part des représentations et on essaye de voir si ces représentations sont justes ou si elles sont fausses, et à partir de là on essaye de rappeler des faits pour construire quelque chose de cohérent, et donc voilà, aller modestement vers la recherche d'une certaine forme de vérité. Donc très clairement, je crois que quand on est victime de conflit, effectivement, le premier travail, tu l'as dit, c'est de ne pas se taire, c'est de dire les choses et c'est d'aller vers les adultes. Et après, la réponse, elle doit être aussi éducative. C'est-à-dire que d'ailleurs, on le voit d'ailleurs, la justice de plus en plus, pour des délits importants, hein, même des délits de violence routière ou des choses comme ça, va pas emprisonner, mais elle va condamner à faire des stages de citoyenneté, par exemple, ou à aller se rendre auprès des publics qui ont été victimes de violences. Je crois que si on déconstruit, si on prend le temps de remettre en cause les certitudes, si on fait se rencontrer les gens aussi, pour que chacun se mette à la place de l'autre. Hein, vous avez aussi tout un tas de jeux de rôle, par exemple, où on prend la place de l'autre et on essaye de vivre ce qu'il vit en se mettant à sa place. Tout ce travail de déconstruction des certitudes et de cheminement vers la tolérance, c'est quelque chose qui effectivement peut nous décourager parce que c'est quelque chose qui nécessite du temps, de la patience, des échecs. Parce qu'on réussit pas toujours, hein. Même quand on essaye de faire une formation auprès des jeunes, on se rend compte qu'ils restent parfois bloqués sur leurs préjugés. Et ce temps de déconstruction pour pouvoir vivre ensemble, il est indispensable, et toute la difficulté, il est de réussir à déconstruire les certitudes et qui sont basées sur des préjugés et sur des vérités fausses.
J'aurais peut-être envie de proposer l'idée quand même qu'au bout d'un moment, des préjugés ne se défont pas, enfin ne se déconstruisent pas en une seule fois, et c'est peut-être la multitude des interventions, et ce qu'évoquait justement le jeune homme en témoignant, c'est qu'en fait, c'est d'avoir à chaque fois une réponse, transgression de la loi, parce que c'est ça en fait, c'est une transgression de la loi au bout d'un moment, à chaque transgression, avoir une réponse, et une nouvelle réponse, et une réponse encore la fois d'après, et peut-être qu'au bout d'un moment, effectivement, ces préjugés peuvent se déconstruire, parce que c'est forcément long de déconstruire des préjugés, j'imagine, enfin c'est, on a mis du temps à les construire parfois on en a hérité aussi, et c'est difficile notamment de déconstruire un héritage, en tout cas, de construction de sa pensée, quoi, j'imagine. Enfin, je sais pas, peut-être que je vais un peu loin, mais en tout cas, il y a dans cet ordre d'idées-là. Monsieur Catan.
On parlait tout...
Oui, ça fonctionne.
On parlait tout à l'heure des rapports entre les mœurs et la loi, et de la façon dont les mœurs évoluent par rapport à la loi. Même si je suis tout à fait d'accord avec Benjamin sur le fait qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire pour faire évoluer les choses, je suis assez touché de ce que dit le jeune là, qu'un professeur n'ait pas réagi lorsqu'il a entendu qu'il y a eu une insulte homophobe qui a été lancée. Il me semble que c'est de notre devoir, d'un point de vue simplement symbolique, hein, de marquer la gravité de la chose, d'accord, puisqu'il y a des lois. Il est tout à fait possible d'aller porter, de faire une main courante ou d'aller porter plainte ou de nommer la chose tout simplement pour que la personne entende que ça relève du droit, ça relève de quelque chose de... Voilà. Qu'au moins l'élève soit accueilli par le proviseur pour se faire un peu remonter les bretelles, pour qu'il entende. C'est-à-dire, je pense que tu avais tout à fait raison lorsque tu disais qu'un sermon, ça suffit pas. Hein, il faut aussi à un moment faire entendre la dimension symbolique de la loi. Alors, il n'est pas question pour moi de dire qu'il faut lui faire payer tant d'amendes ou qu'il faut le mettre en prison ou quoi que ce soit, mais qu'il faut qu'il entende la gravité à travers toute une structure symbolique qui est la façon dont le professeur va le convoquer pour le reprendre, la façon dont il va avoir droit à une visite chez le proviseur, voire la façon dont il va être mis au courant du fait qu'il y a eu dépôt d'une main courante à la police, parce que ce qu'il a fait là relève d'une infraction à la loi. Bon, après, Bien sûr qu'il n'est pas question d'aller les enfermer ou d'aller parce qu'ils ont dit ceci ou cela, mais je pense que outre le rôle d'éducation qu'on a, il y a aussi cette dimension symbolique à un moment de poser des limites à la loi et de dire ici c'est non. Voilà, passer cette limite, vous n'avez pas le droit, il y a un mur, que tu le comprennes, que tu le comprennes pas, que tu sois de telle éducation ou telle autre éducation, peu m'importe, là, c'est non. Voilà, et je pense que c'est des choses qu'il faut marquer. Après, que ça soit accompagné d'éducation, je pense que c'est important, mais voilà, je pense que il y a, les élèves ont à demander hein, à ce qui est véritablement une réponse des professeurs sur des problèmes comme ça, une réponse qui ait cette force-là symbolique et cette voilà.
Alors c'est vrai que là on a parlé des violences à l'instant T, mais moi j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur les cyberviolences, où justement les violences continuent à la maison via les réseaux sociaux et qui à mon avis ne font que les aggraver. Je sais pas si vous avez vu des choses passer sur les... Voilà. Donc ça arrange pas non plus, hein, je pense.
Je propose qu'on l'ajoute au dernier plateau, parce qu'on aura un plateau tout à l'heure justement avec les jeunes qui nous rejoindront pour échanger, qui eux seront peut-être plus dans cette pratique, enfin pas dans la pratique de bourreau, hein, j'entends, mais en tout cas dans la pratique virtuelle, dans la pratique des outils plus modernes peut-être, dans l'utilisation, et échangeons peut-être sur cette notion, je le note, cyberharcèlement, parce que ça va effectivement de pair avec comment vivre ou pas, ça se fait...
Alors pour répondre à votre seconde question quand même, sur les actions du CIDFF, bon ben nous on... À chaque collectif, on évoque justement la question des LGBT et des stéréotypes. Après, il peut y avoir des actions plus ponctuelles, mais ça, c'est tout ce qui concerne après les appels d'offres, de la DILCRA, des choses comme ça, des actions qu'on peut mettre en œuvre. Tout est possible.
Une intervention dans la salle également.
Oui, moi je voulais intervenir.
Alors bien dans le micro par contre.
Je voulais intervenir par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement je suis complètement de votre avis par rapport au fait qu'il faille sanctionner, dire les choses, reprendre, et encore plus, alors moi c'est mon avis de personne un petit peu âgée déjà, mais je pense que dans les structures, aussi bien collège que lycée, où le phénomène de groupe est très important pour la construction de l'identité, là on retrouve la position d'Amnesty, c'est-à-dire dire... montrer, permettre à la personne qui se trouve en situation d'infériorité, de douleur, de pouvoir s'appuyer sur le fait que la dénonciation a été faite et de se sentir un petit peu protégé par rapport à ça et de renvoyer au reste du groupe qui peut-être n'a rien dit mais n'en pensait pas moins que effectivement le poids de la réelle parole par rapport à la loi et par rapport au fait que ces injures sont insupportables, voilà, ça peut aussi leur être reproché à un moment donné et peut-être permettre une réflexion dans chaque groupe en disant, bon, honnêtement, là on arrête de se la jouer parce que machin, et voilà, il dit qu'il est gay et puis on se la joue comme ça. Voilà, je crois que ça c'est important dans tout groupe d'ados, dans tout groupe de jeunes. Bon, je ne suis plus au lycée, mais l'exemple porte. Et Amnesty, c'est ça, c'est dénoncer quelque chose, permettre à la personne qui est en souffrance de savoir que ça a été dénoncé, et permettre aux gens qui veulent l'aider de s'appuyer dessus pour se sentir plus fort. Voilà, excusez-moi, je parle un peu avec les mains.
Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de parler avec les mains. Didier, on vous laisse la dernière courte intervention. Vous avez vu, j'ai dit dernier, courte, et je vous donne la parole.
Ce sera tout à fait le cas, puisque en fait c'est pas une intervention, c'est juste une information. Monsieur Cocheteux a parlé tout à l'heure de monsieur le défenseur des droits. Donc monsieur le défenseur des droits, monsieur Hôpital, était invité. Il devait venir effectivement à cette émission ce soir, mais il m'a appelé hier pour il avait un empêchement. Donc il n'a pas pu y participer, mais on va se revoir, il participera à d'autres rencontres dans le cadre de cette série d'émissions Fréquence Droits Humains. Voilà, je voulais juste apporter cette information.
Merci Didier. Alors monsieur Cocheteux, nous vous remercions et bien sûr vous pouvez toujours intervenir sur les plateaux suivants comme cela vous chante.
Merci à toi.
Pour continuer, nous allons mettre la suite du micro-trottoir que nous avons entendu tout à l'heure.
Pensez-vous qu'ils ont les mêmes droits et pourquoi ?
Non. Enfin, après ça dépend des pays, mais par exemple en France on essaie qu'il y ait de plus en plus de droits. il y a quand même des personnes qui sont toujours peu ouvertes sur le sujet. Après, il y a des pays, enfin, le génocide homosexuel en Tchétchénie, voilà.
Ah bah oui, chacun son truc, comme on dit. Hein.
Non, pas réellement, déjà ils ont... Non, enfin, il y en a qui diront oui, moi je pense pas qu'ils ont vraiment les mêmes droits. Déjà, tout ce qui est transsexuel, ils ont même pas le droit de choisir leur sexe, donc sur la carte d'identité, déjà, ils sont classés féminin ou masculin, il y en a qui veulent pas forcément l'être. Ça a été refusé de ne pas mettre de sexe sur la carte d'identité à la naissance. Ça aurait dû être accepté, on a le droit de choisir ce qu'on peut être. Donc non, pas réellement.
Bah oui, il n'y a pas à se poser de questions.
Ils ont les mêmes droits, bien sûr qu'ils ont les mêmes droits. Okay. Pourquoi ils n'auraient pas les mêmes droits? Je trouve que c'est anormal qu'ils n'aient pas les mêmes.
Ils ont même un peu plus de droits à l'heure qu'il est, parce que ça fait longtemps qu'ils sont tyrannisés.
Non, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes droits. Parce qu'il y a des gens qui prennent ça mal, quoi, ils le prennent mal.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui.
Et dans un monde idéal, comment voyez-vous les choses?
D'être très compréhensif envers tout le monde.
Un monde de gays.
Chacun livre de soi, je sais pas, si tu veux être une femme, mais femme sur ta carte d'identité, même si t'as une barbe, une moustache, si t'as envie d'être bisexuel, donc tu te trimballes avec ton copain et ta copine en même temps, bah peu importe, je m'en fous, enfin, libre que tout le monde puisse faire ce qu'il veut sans le regard méchant des autres, les critiques, la politique qui s'en mêle, enfin, libre quoi.
Tout le monde serait comme il est.
Ouais. Enfin, tout
je pense que déjà en France, il est librement quand même. Hein.
Okay.
Bon, le problème, c'est dans d'autres pays comme la Russie, enfin tous ces pays-là où ils sont pourchassés. Alors ça, je trouve ça vraiment dégueulasse.
Libre pour eux.
J'en sais rien non plus.
Bah, que tout le monde s'accorde sur ce sujet, okay. Que ça soit quelque chose de très commun en fait.
Okay.
Ça ne l'est pas aujourd'hui.
Tout le monde s'aime, de l'amour partout.
Rediffusion d'une émission de Principe Actif.
Alors, et pour finir, nous recevons l'antenne jeune sur ce dernier plateau avec qui nous avons collaboré pour réaliser cette émission. Donc Clara, Samy et Emma. Bonjour.
Une rediff quoi.
Bonjour.
Bonjour. On va commencer à les remercier pour la préparation, c'est pas mal quand même,
bah oui,
parce que ça file
forcément
un bon coup de main. Ce sont notamment les auteurs des micro-trottoirs que nous aurons entendus dans cette émission.
Alors justement, au niveau de ces micro-trottoirs, comment ont réagi les gens aux questions au niveau de ce thème?
Bah franchement, moi j'ai été assez agréablement surprise, il n'y a pas eu vraiment de grosses bêtises ou questions choc, ok. Il n'y a pas vraiment eu de... Enfin, les réactions étaient plutôt sympas, je trouve. Il n'y a pas eu de grosses bêtises.
Oui, il y a eu beaucoup de réactions positives et notamment une fille dans ces micro-trottoirs qui a donné des réponses qui m'ont convaincu que la jeunesse progresse sur le plan par rapport aux idées LGBT et que au fur et à mesure, je pense que ça va s'installer doucement et qu'on va aller vers un respect des droits et des personnes absolues, si je puis dire.
Alors, on parlait tout à l'heure de la banalité, les préjugés. Est-ce que vous pensez qu'avec les générations futures, ça va s'améliorer?
Alors oui, enfin, comme je viens de le dire, je vois que les jeunes sont de plus en plus ouverts d'esprit. Et j'ai l'impression que ça va en s'arrangeant. Même s'il y a encore des efforts à faire, beaucoup d'efforts, on est en bonne voie et je ne perds pas espoir. Donc, voilà.
Très bien.
Moi je voulais revenir sur un premier truc, là vous avez évoqué que vous étiez jeune, que les choses avançaient différemment peut-être des autres gens un peu moins jeunes, et quoique encore, c'est juste peut-être votre vision à vous. Hein. Non mais en tout cas, il y a notamment cet outil qui est Internet aujourd'hui, on ne l'a pas abordé réellement tout à l'heure dans la notion des blagues à caractère homophobe ou en tout cas aux insultes aussi insinueuses. Il y a un outil aujourd'hui qui est sur lequel pourtant l'anonymat ou en tout cas la distance permet parfois de se lâcher un petit peu plus, c'est notamment les réseaux sociaux. Vous qui êtes consommateur de réseaux sociaux, j'imagine, qui êtes né avec les réseaux sociaux, qui avez toujours connu ça dans l'utilisation d'Internet, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres personnes tout à l'heure qui ont échangé autour du plateau. Cet outil-là, pour vous, est finalement se gère comme l'espace public réel ou finalement c'est un peu différent quand même cet espace virtuel?
Bah, du coup, je vais prendre, tu prendras après. Franchement, je suis pas
confiante. Bien sûr, en fait, c'est une petite technique, on le pose sur le menton et après, du coup, après, on fait ce qu'on veut avec les mains. Okay. Vous aussi, vous parlez avec les mains et c'est embêtant quand on a un micro. Posez-le sur votre menton, ça vous évitera de parler trop avec votre main.
Bah, ouais, du coup, j'ai pas été beaucoup confrontée à ça, au cyberharcèlement. Je fais pas partie de ceux qui ont vécu ça, de l'harcèlement. Mais je pense que oui, vraiment, il y a une grande différence. Enfin, on peut s'identifier n'importe comment sur les réseaux sociaux, on fait ce qu'on veut. Tout le monde n'est pas au courant, les gens, enfin, on peut faire vraiment beaucoup de mal, pousser au suicide même dans certains cas. Et je pense vraiment que oui, il y a une forme de liberté qui tue, vraiment. C'est
drôle ça de mettre dans la même phrase cette liberté qui tue.
Ah bah oui, c'est le cas de le dire. Oui, oui, la liberté, on peut dire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, on prend l'identité de qui on veut, on peut dire du mal de qui on veut. Donc oui, je pense vraiment que dans certains cas, ça peut tuer. Tu prends ?
Je suis assez d'accord avec toi parce que c'est... Enfin, les réseaux sociaux en général, c'est un peu comme une énorme place publique où on peut dire toutes les conneries qu'on veut. Mais justement, par expérience...
Ce serait plus un PMU alors.
C'est ça.
Pardon.
Et du coup, bah, oui, par expérience, il y a beaucoup de haine qui est déversée dedans. C'est un peu comme un défouloir en fait parce qu'il n'y a pas de conséquences à proprement parler. Mais je vois que ça s'améliore, il y a de moins en moins de haine déversée sur les réseaux, de moins en moins de noirceur, si je puis dire. Donc,
tout le monde n'a pas l'air forcément d'accord, mais je vous en prie, hein, déroulez le propos. Non, non, à la table même, hein, c'est votre camarade juste à côté, Clara, qui n'était pas forcément d'accord sur le fait qu'il y en ait moins forcément de haine ou pas. Mais laissez, pardon, je laisse poursuivre votre propos.
J'écoute rebondir, parce que moi, il me semble que il y a moins de... Enfin, ça s'améliore un petit peu, c'est quand même encore... à travailler, parce que c'est toujours cette place publique où on déverse plein de haine, mais ça, pour moi, c'est en train de, enfin, j'ai l'impression que ça s'arrange vraiment. J'ai peut-être un petit peu utopiste, mais je vois les choses s'améliorer et je trouve ça bien. Après, peut-être que tu n'es pas d'accord, mais...
Vous souhaitez réagir, oui.
Non, en fait, je ne suis pas d'accord. Enfin, oui, plus ou moins. Mais au lieu de parler que de l'aspect négatif des réseaux sociaux, forcément, il y a des insultes, il y a des choses qui courent, des messages qui vont faire vraiment du mal sur le long terme. Mais il y a aussi le fait de pouvoir se sentir soutenu sur des pages qui sont créées pour ça, pour qu'on puisse se retrouver ensemble et pouvoir partager sur ce que l'on vit et les remarques qu'on vit chaque jour, bah, par exemple en allant au lycée, en se baladant en ville ou en faisant une sortie entre amis. Et voilà, donc c'est aussi super important d'avoir des groupes comme ça où on peut vraiment tous se soutenir les uns les autres sur les réseaux sociaux.
C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi parce que on n'a pas vraiment précisé là au cours de l'émission qu'il y a de plus en plus de groupes de soutien. Et ça fait chaud au cœur et c'est vraiment intéressant de voir que les gens se mobilisent de plus en plus. Même, il y a toujours évidemment du négatif partout, mais vraiment il y a de belles choses qui se mettent en place. Et franchement, ça donne un peu foi en l'humanité de voir que les gens acceptent, progressent, évoluent.
Oui, ce que vous soulignez effectivement, c'est que bon, il y a cette partie négative qui existe, voilà, comme on l'évoquait le PMU là, mais il y a aussi cette facilité de mise en contact finalement et de plus être seul face à des questionnements, des problématiques ou juste tout simplement plus être seul avec ces questionnements quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal pour le coup.
Alors tout à l'heure, Clara, on parlait de l'homoparentalité et la discrimination qu'il y avait autour. Je crois que tu voulais un peu agir un peu plus là-dessus, réagir.
Bah oui, vraiment, je voulais réagir à propos de l'adoption. Je sais très bien de quoi je parle. J'ai été adoptée il y a un peu plus de 10 ans maintenant par un couple de parents qui rentrent dans la norme. Mais je sais que pour beaucoup de couples homosexuels, c'est extrêmement complexe, vraiment.
Bah, c'est effectivement les avancées ce qu'on évoquait en début d'émission d'ailleurs, entre cette représentation de morale et puis la loi et les choses qui avancent pas toujours au même rythme. Et c'est pas parce qu'au bout d'un moment on a le droit légalement, j'entends, que ça simplifie les choses effectivement. Sur ces notions là, et on y reviendra peut-être dans un tout petit instant, hein, bien entendu, mais c'est aussi cette notion de droit. Vous qui êtes plus jeune, cette notion de droit, enfin, parfois on dit des fois les engagements politiques ou autres naissent aussi dans les lycées notamment, qui est le moment où on commence à avoir des convictions, des causes à défendre. Bah, c'est normal aussi, hein, c'est maintenant ou jamais, mais c'est ça ou faire un groupe de rock'n'roll, hein. Donc bon, Bah, c'est pas vrai ou pas? Ou les deux, bien sûr, hein, on peut faire les deux, bien entendu. Mais c'est des thèmes comme ça aussi qui animent et sur lesquels on a envie de s'engager. C'est pas par hasard aujourd'hui, si nous sommes reçus par l'antenne jeune Amnesty, que ce sont bien des jeunes lycéens qui se battent aussi pour toutes ces choses-là. Et pas uniquement sur ce qu'on a, sur le thème de l'émission aujourd'hui autour des minorités sexuelles, mais bien entendu autour de l'accès aux droits. C'est des choses qui sont importantes aussi, j'imagine, pour vous, jeunes, avec votre regard de jeune.
Honnêtement, oui, en tant que jeune, je m'en foutais complètement de tout, enfin, comme n'importe quel ado. Mais je me suis retrouvé au lycée avec un professeur, monsieur Gaudret, justement, qui m'a emmené en manif.
Il dit non.
On s'est croisé plus haut.
Ah voilà, vous êtes croisé en manif, c'est pas la même quand même. Hein.
Et justement, ce professeur m'a donné le goût de l'engagement pour une cause. Et depuis, je veux vraiment m'engager pour la cause qui me tient le plus à cœur, à savoir la communauté LGBT. Et de voir que le droit avance pas, enfin la loi avance pas forcément assez vite, ce qui est assez frustrant. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas grave, on continue et on attend une réponse encore grâce à ce professeur, enfin je n'aurai de cesse de continuer à m'accrocher jusqu'à ce que l'égalité soit totalement respectée et appliquée.
Samy, tu es une personne hétérosexuelle. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu es ouvert d'en parler aux autres?
Non, je suis homosexuel.
J'ai dit quoi? Excuse-moi. Excuse-moi.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Je suis homosexuel. Est-ce que c'était une réticence à en parler ouvertement ou c'est quelque chose de simple pour toi?
Alors, non, j'ai pas de réticence parce que, sans vouloir confirmer les clichés, enfin, je pense que ça se voit un petit peu quand même. Mais non, j'ai pas de réticence.
Pas dit ça personnellement. Moi, j'aurais pas dit que ça se voit ou autre chose, hein, personnellement.
Hein. Ah, c'est gentil, merci.
Je te laisse penser, pardon, mais je vois pas en quoi.
Et non, j'ai pas de réticence par rapport à ça parce que je suis comme ça. Avant d'être gay, je suis un homme et voilà, je suis un homme, je suis gay, c'est comme ça. Et j'en parle pas ouvertement, mais je m'en cache pas non plus. C'est juste que, ouais, je suis gay, mais y a rien à dire, quoi. C'est banal. Enfin, pour moi, c'est une chose normale. Je vais pas non plus après parler de mon intimité parce qu'on demande pas à un hétéro ce qu'il fait avec la copine. Hein. C'est pas correct. Mais voilà, je n'ai pas de réticence à en parler. Mais je m'en cache pas non plus. Enfin...
Sur le regard quand même du coup de l'autre. Ah bah ça y est, tout le monde se marre maintenant. On va essayer de finir quand même cette émission. Hein. Sur l'histoire du regard de l'autre, là Samy, on sent bien un discours très assumé, très 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 clair. C'est pas si évident que ça non plus pour tout le monde. J'imagine le regard de l'autre fait partie quand même des choses qui peuvent blesser, qui peuvent freiner, qui peuvent amener des complications quand même, non?
Oui, ma place là de gay affirmé, je l'ai pas toujours eu. Enfin, je me suis battu pour avoir cette place, cette confiance. Enfin, quand j'étais plus jeune, enfin, je viens d'un milieu musulman, du coup, c'est pas très facile, c'est pas forcément facile de grandir, même par rapport aux clichés dont on parlait tout à l'heure, la poupée, les voitures, enfin voilà. C'est dur, c'est vraiment dur, même au collège en général, sa famille, ses amis, enfin, c'est un truc. Je ne saurais pas comment le décrire, c'est invivable, c'est frustrant et ça fait mal, on ne peut rien y faire. Il m'est arrivé de me battre avec des gens juste pour ça, c'est ridicule, mais le regard des gens fait mal, surtout quand c'est sa propre famille. Mais il ne faut pas non plus renoncer à ce qu'on est, sous prétexte qu'on va décevoir ou faire la fierté de quelqu'un. Il faut assumer qui on est et le porter haut et fort.
Très bien, c'était cette petite notion-là qui me paraissait intéressante à creuser. Il y en a une qu'on a complètement squeezée et on avait commencé à aborder cette question, c'est avec Clara qui nous parlait aussi d'un sujet qui lui tient à cœur et elle avait raison de vouloir en parler. C'est sur cette notion d'adoption et sur lequel tu me disais, mais j'ai pas fini de dire ce que j'avais à dire. Alors Clara, justement, sur cette notion d'adoption et en particulier sur les couples issus de la minorité sexuelle, enfin de ce qu'on appelle la minorité sexuelle, LGBT, lesbien, gay, bi et transsexuel. Sur cette notion-là, on sentait que voilà, tu disais, ben, c'est pas normal, c'est encore plus difficile, c'est encore plus compliqué, Clara.
Oui, voilà, oui, exactement. Je pensais pas que j'allais être la première à craquer, mais c'est arrivé. Donc non, c'est pas normal, c'est extrêmement compliqué déjà pour un couple hétéro. Et enfin non, pour les couples homo, c'est vraiment une galère et c'est très peu accepté d'adopter un enfant. Enfin, je sais que les gens utilisent souvent, les psychologues aussi, que dans un couple, pour être parent, il y a besoin d'un père, d'une mère, qu'on n'adopte pas en étant deux pères ou deux mères. Donc non, c'est vraiment ce qui choque, ce qui moi me choque. Et c'est compliqué, vraiment. Je pense vraiment qu'on n'imagine pas à quel point ça peut être compliqué d'adopter. Et encore plus quand on est issu de la minorité sexuelle. Donc je trouve ça hallucinant.
Finalement, quelque chose qui pourrait être vécu comme une bonne nouvelle quand même, l'arrivée d'un enfant, et finalement très compliqué à enfin, on peut plus l'aborder sereinement, quoi, tout simplement, l'arrivée d'un enfant, quand on doit se battre pour faire ouais, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est se battre pour pouvoir adopter. Finalement, ça évacue un petit peu ce qui devrait être le fond de l'histoire, c'est de l'amour, finalement, adopter un enfant, quoi. Et finalement, à travers le combat, c'est peut-être ça un petit peu qui passe, enfin qui pourrait passer au second plan si on n'y est pas attentif. Enfin, je me permets d'enrichir l'échange et la discussion.
C'est exactement ça.
Nous arrivons sur les 5 dernières minutes de cette émission. C'est à peu près ça l'idée. Nous sommes contraints par le timing. Emma, qu'on n'a pas beaucoup entendu, une réaction peut-être sur ce qu'on s'est dit, sur ce qu'on voulait dire, sur les choses qu'on n'aurait pas encore dites. Quelque chose en particulier, Emma? Ah oui, là c'est brut, hein. c'est pas forcément, c'est ça? Non, faut pas hésiter à me dire non, pas forcément, ou si c'est ça dont j'avais envie de parler.
Oui, un peu, peut-être.
Ah bon.
Bah voilà, enfin c'est un sujet qui est très délicat, même bah, encore entre nous, dans tous les jeunes, on a, enfin je parle par exemple pour Samy, pour moi, pour tous ceux qui sont dans cette communauté en fait, on a toujours des réflexions, bah, des blagues qui sont censées être super drôles, mais en fin de compte, bah c'est pas hyper drôle. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on découvre au fond de nous et qui au final, au début, nous fait vraiment peur. Moi, j'ai commencé par vraiment me refermer au début et je me suis fait peur moi-même. Un jour, je me suis regardée et je me suis dit, bah, Emma, qu'est-ce que t'es devenue? Ça m'a fait peur et puis bah voilà, j'ai pu en parler à une amie qui aujourd'hui encore est une amie pour qui je serai toujours redevable de tout ce qu'elle a fait pour moi, de l'écoute qu'elle m'a donnée. Mais voilà, j'aimerais que tout le monde comprenne qu'on envoie juste un message de force. Et que bah, on peut y arriver, on peut arriver tous ensemble à que ça soit pas justement une minorité sexuelle, qu'on soit tous ensemble et qu'on soit sur le même pied d'égalité.
Que ce soit une normalité.
C'est ça. Global. On devrait pas déjà avoir se poser ces questions en disant bah et notre famille va penser quoi de nous et puis bah, nos amis, comment on va faire et est-ce qu'on va pouvoir vraiment vivre ce qu'on veut vivre et on a besoin de le vivre et on a besoin tous ensemble d'y arriver.
C'est un bon mot de conclusion, en tout cas, de cet élément. Quelque chose, on a encore 3 minutes pour une intervention ou pas en salle, ou vous, en plateau, vous ressaisir du micro pour compléter, n'hésitez pas. Hein. Une intervention en salle?
Moi, je...
Le temps que ça s'allume et que ça connecte, voilà, c'est
ça
parti.
Ça connecte, voilà. Voilà. Je voulais très simplement, avant que ça termine, dire un grand merci aux élèves qui sont là. Nous, on a notre boulot de prof à faire. Dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, hein, cette nécessité à un moment de se référer à la loi, de soutenir les élèves, mais on ne peut rien faire sans cet engagement et cette participation aussi des élèves. Il faut qu'ils soient là et je suis bien sûr très heureux d'être là simplement pour les suivre, parce que c'est eux qui nous ont invités, qui nous ont demandé de venir. Et je pense voilà que... Je les félicite de leur engagement et je les en remercie surtout.
Eh bien, je me joins à vous parce qu'effectivement, au-delà du générique, on remerciera tout le monde parce que tout le monde a participé, bien entendu. Il y a des engagements qui sont plus marquants, plus forts que d'autres. Alors, bien entendu, les professeurs, ils s'engagent parce qu'ils viennent. Bien entendu, le groupe Amnesty est là aussi, ils s'engagent. Mais il y a un vrai engagement de poids et à la préparation et au tournage des micro-trottoirs et à la prise de parole et à la réaction et au travail qui s'est mis en place avec Vincent tout en amont. Et effectivement, bah, bravo. c'est au-delà du merci, c'est bravo pour cet engagement et la réalisation de cette émission. Voilà, bien entendu, on le rappellera au générique, mais ça, c'était un vrai bravo et un vrai merci à vous. Un vrai. C'est comme ça qu'on fait. On rip vers la conclusion, je crois, Vincent. Non,
oui, c'est ça.
Voilà, avec un petit tapis de générique qui va pour y illustrer, faire ça gentiment. C'est vous qui faites la conclusion, Vincent.
Allons-y,
c'est parti.
Stopper, ça va pas.
Je vous stoppe quand c'est fini, c'est ça.
C'est ça.
Bon, bah, allez-y, Vincent.
Alors, fréquence droits humains, donc, du coup, ça continue. On aura toujours des émissions mensuelles. Donc, il y en a une qui se prépare pour le mois de novembre, donc ça sera à suivre.
Et, on a le thème ?
Pas encore,
d'accord.
C'est en discussion.
En négociation.
En négociation, c'est
très
ça.
Très bien.
Et pour terminer, du coup, on va remercier l'antenne jeune, bien sûr, Samy, Clara et Emma. On va remercier les professeurs, M. Gaudret, M. Catan,